le lieu pour faire deux lectures. La première se trouve dans le livre d'Esdras. Le livre d'Esdras, au chapitre 3, à partir du verset 10. Là, le livre d'Esdras, à partir du chapitre 3, pardon, à partir du verset 10. Esdras, chapitre 3, verset 10, il nous est dit: lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce que l'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte que l'on ne pouvait plus distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Voilà pour cette première lecture. Je vous invite à faire une deuxième lecture dans le livre d'Agée. Dans le livre d'Agée, au chapitre 2. Livre d'Agée, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Livre d'Agée, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète, en ces mots: parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voilà, donc ces deux textes nous ramènent dans une période bien particulière de la vie d'Israël, puisque c'est ce qu'on appelle le temps de la restauration. Vous savez qu'il y a cet événement majeur dans la vie d'Israël qui nous est relaté à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est l'invasion de Jérusalem par l'armée du roi de Babylone, hein, les Chaldéens. Et voilà, cette invasion est intervenue alors que Dieu l'avait annoncé à plusieurs reprises par ses prophètes. Dieu s'était adressé au peuple d'Israël alors que celui-ci établit sur la terre que Dieu lui donnait en héritage, conformément à la promesse faite dès longtemps, dès le temps d'Abraham. Dieu avait promis à Israël qu'il leur donnerait cette terre en héritage. Et par ses infidélités, Israël a éloigné de lui la bénédiction. Et plusieurs reprises, Dieu lui a envoyé des prophètes, tentant de parler au cœur d'Israël, de le raisonner. À l'époque, Israël était divisé en deux royaumes. Vous savez que sous le règne du fils de Salomon, Roboam, il y a eu cette division entre le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé ses prophètes au royaume du nord, des prophètes au royaume du sud. Et malgré les exhortations de ses prophètes, oh, sans doute, hein, dans ces royaumes, s'est-il trouvé des hommes et des femmes qui ont pris à cœur la parole que Dieu prononçait par les prophètes et ont écouté, mais le peuple lui-même n'en a pas tiré parti, n'y a pas pris garde, et et conformément à ce que Dieu révélait par ses prophètes, bien Dieu a permis que ce roi de Babylone, cet homme puissant, il était puissant parce que Dieu l'avait permis, Dieu lui a donné autorité sur les nations de la terre, eh bien envahisse le royaume du sud principalement. Pourquoi est-ce que l'on parle ici plus particulièrement du royaume du sud? Parce que c'est là que se trouvait le temple. Le temple, c'était le symbole de la présence de Dieu, là, sur la terre, au milieu de son peuple. Et le temple a été rasé, le temple a été brûlé, les ustensiles de ce temple ont été déportés, volés, emmenés en captivité à Babylone. Alors, ça s'est passé sous le règne des rois Joachim, Sédécias. Tout s'est produit comme Dieu l'avait annoncé. Bien sûr, c'était un choc, c'était un traumatisme pour le peuple d'Israël, dont beaucoup avaient été eux-mêmes déportés. Ils se trouvaient loin de leur pays, se trouvaient loin de leurs attaches. Des jeunes gens ont été emmenés loin de leurs parents. Ils ont grandi dans une terre hostile, sous un joug étranger, idolâtre. Et ceux qui étaient restés à Israël avaient de quoi se désoler, puisqu'ils n'avaient plus le temple. Voilà, on a osé à peine imaginer quel choc pour Israël. Le symbole visible de la présence de Dieu était retiré de dessous leur Dieu. Mais Dieu avait annoncé par ses prophètes aussi, voilà, une parole qui était là destinée à donner de l'espérance à ceux qui, au milieu du peuple, étaient fidèles et avaient pris à cœur les paroles des prophètes. Cette parole, Dieu l'avait annoncée aussi pour qu'elle parle au cœur de ceux qui, malgré leurs infidélités, bien lorsque Dieu a permis ce jugement, sont rentrés en eux-mêmes et ont pris à cœur les paroles et l'œuvre de Dieu, ont reconnu que ce qui s'était produit était le juste châtiment que Dieu avait envoyé. Et les paroles que Dieu avait prononcées étaient des paroles de jugement, mais aussi il y avait cette parole d'espérance, car Dieu ne nous laisse jamais sans espérance. Il y avait cette parole que le prophète Jérémie avait prononcée en disant, au bout de 70 années, je reviendrai. Je reviendrai, je vous ferai remonter des nations, vous aurez été emmenés captifs, et le temple, ce temple qui a été rasé, ce temple qui a été pillé, il sera rebâti. Et c'est à cette période que nous amènent les deux textes que nous avons lus. Conformément à sa promesse, Dieu a parlé au cœur d'un roi païen, c'était le roi Cyrus, un roi de Perse, un homme qui apparemment ne savait rien de Dieu. Dieu s'est révélé à lui et cet homme a compris. Vous voyez que Dieu lui ordonnait de faire en sorte que le temple se rebâtisse. Et c'est Cyrus, ce roi païen, qui a parlé, qui a dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Et il a adressé une parole aux Juifs en leur disant « Mais qui de vous et de son peuple, qu'il monte et qu'il bâtisse la maison de Dieu à Jérusalem ?» C'est ce que nous voyons dans le texte d'Esdras que nous avons lu. Le peuple de Dieu s'est mis à l'œuvre et on s'est mis à reconstruire les fondements du temple. Ce temple qui avait été détruit va être rebâti. Et bien sûr, pour les jeunes gens qui assistaient à cette construction, c'était, nous l'avons lu, un sujet d'action de grâce. Il y avait des cris de joie. On rebâtit la maison de Dieu. À nouveau, il y aura ce symbole de la présence de Dieu au milieu de nous. Et sans doute, c'est la marque que, en réalité, Dieu, à nouveau, va demeurer au milieu de son peuple, au milieu de nous. Mais, nous dit aussi ce même texte d'Esdras, il y avait aussi des personnes plus âgées, des Israélites, qui, eux, avaient connu la gloire de la maison, c'est-à-dire le temple de Salomon. Ce temple, bâti par Salomon, conformément au plan même que Dieu avait révélé à David, c'est un temple somptueux, une maison magnifique. Et à côté de ce temple, bien le temple qui était bâti lors de la restauration semblait bien petit, semblait misérable. Et à tel point que ces Israélites âgés, alors que les jeunes gens criaient leur bonheur et leur joie, bien ils pleuraient, parce qu'ils se rendaient compte que la maison qui allait être bâtie serait bien plus petite, n'aurait pas du tout la gloire de la première maison. Au point que Esdras nous dit qu'on ne pouvait plus distinguer le bruit des pleurs du bruit de ceux qui criaient leur joie. Alors ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de rebâtir cette maison. Effectivement, c'est jamais simple de rebâtir ce qui a été détruit. Mais, vous voyez, il y a eu toutes sortes d'oppositions, il y a eu toutes sortes d'adversaires qui ont voulu s'opposer au dessein d'Israël de rebâtir la maison de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on rebâtit ce qui a été détruit, il y a souvent de l'opposition. Mais Dieu a permis, vous voyez, que les Israélites soient secondés, soient secourus, soient assistés. Et Dieu a notamment suscité deux hommes, deux prophètes, Zacharie et puis Aggé, hein, dans le livre duquel nous avons lu ces paroles. Aggé qui, lui, va adresser une parole qui est destinée particulièrement à ces Israélites âgés qui ont connu la gloire du temple de Salomon. Ils ont connu ce temple somptueux, fastueux. Puis ils voient s'élever cette maison, cette nouvelle maison, ce nouveau temple. Il n'a pas la gloire du premier. Et Dieu va les encourager. Dieu va leur donner une promesse. Il va leur dire, écoutez, vous dites, cette maison, elle est comme rien à nos yeux. Mais Dieu va leur promettre que, bien, il va faire habiter sa gloire néanmoins dans cette maison. Il va leur dire, premièrement, je serai présent. Travaillez, parce que je suis au milieu de vous. Et ça, la présence de Dieu, vous voyez, ça devait compenser toute tristesse et tout ce qui faisait la douleur de ces Israélites âgés. En plus, Dieu va dire, je vais agir par mon esprit. Il promet l'action du Saint-Esprit au milieu du peuple qui rebâtit le temple. Il va annoncer l'avenir, il va dire, voyez, je vais amener dans cette maison tous les trésors des nations. C'est l'Église que Dieu annonce là. Voilà, sa maison, c'est l'Église. Lorsque Dieu permet que le temple s'édifie, dans le dessein de Dieu, il voit déjà l'Église et il annonce que voilà, l'Évangile va être annoncé à toutes les nations. Que les nations vont venir et former avec Israël un seul peuple, avec ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis il annonce une grande gloire, une grande gloire qui va remplir sa maison, une gloire dont il va dire qu'elle sera supérieure à la gloire de ma première maison. Et cette parole était destinée à encourager ceux qui travaillaient à bâtir ce temple. Il avait l'air tout petit, il semblait comme rien en comparaison du temple de Salomon, mais Dieu leur a dit, la gloire dont je remplirai ce temple, elle sera supérieure. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Première pensée, bien sûr, c'est que l'œuvre de Dieu, elle s'opère souvent à travers des choses qui ne frappent pas le regard. Il y a des choses qui impressionnent le monde, des choses qui attirent les gens, qui attirent les yeux, mais l'œuvre de Dieu, voyez, ce temple, il était petit, il n'y avait rien d'attirant, en tout cas à côté de la gloire du temple de Salomon. Dieu néanmoins promettait qu'il lui ferait demeurer une gloire supérieure à celle qui avait rempli le temple qui l'avait précédé. C'est un petit peu comme le tabernacle, puisque l'on parle des maisons de Dieu, du temple. Vous savez que dans le désert, il n'est pas question de construire un temple, mais au fil des pérégrinations d'Israël dans le désert, on transportait les éléments de ce tabernacle dont Dieu avait fixé minutieusement les plans, il les avait révélés à Moïse, et au fur et à mesure que le peuple se déplaçait dans le désert, il bâtissait ce tabernacle. Il n'y avait rien dans le tabernacle d'attirant, surtout si vous le regardiez de l'extérieur. Rien de commun avec les temples des nations païennes qui entouraient Israël. Mais quand on entrait dans ce tabernacle, quand le sacrificateur y entrait pour célébrer le culte, quelle gloire! Et vous voyez, le tabernacle était aussi le symbole de la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et que de gloire dans la façon dont Dieu a conduit ce peuple et s'est manifesté au milieu de lui. Vous voyez, ça ne frappait pas les regards, mais Dieu se manifestait. Le tabernacle était bien sûr une image du salut. Ça n'attire pas le monde, mais quelle gloire pour celui qui accepte de rentrer et de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas paru comme l'un des grands de ce monde. On le sait, il est venu comme un simple homme, paraissant dans une famille pauvre d'Israël, puisque lorsqu'il sera circoncis, on montera au temple aussi pour le présenter au Seigneur. Et c'est l'évangéliste Luc qui précise qu'on offrira pour lui deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. C'est le sacrifice du pauvre. Il n'y avait rien qui frappait le regard. Le Seigneur lui-même est né, a vu le jour dans cette mangeoire de Bethléem. Il n'y avait rien pour attirer le regard des hommes. Et, vous voyez, lorsque l'on lit ces récits, on s'aperçoit que bien, les anges ne s'y trompaient pas. Ils savaient, n'est-ce pas, quelle était la gloire que le Seigneur était venu inaugurer. Ils sont présents, ils parlent. Ce cœur des anges va apparaître à ceux qui gardent les troupeaux pendant les veilles de la nuit. La naissance de Jésus sera précédée par de nombreuses apparitions d'anges. Joseph fera lui-même l'objet de ce service des anges qui vont l'aider, qui vont lui parler, qui vont diriger ses pas. Ça ne frappait pas le regard des hommes, mais c'était le ciel qui descendait sur la terre. Et puis, l'Église aussi est un peu comme ça. Vous savez que Paul écrira aux Corinthiens qu'il n'y avait parmi eux ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de sages, hein, ni beaucoup de riches. Et Paul dira, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Hein, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, celles qui ne sont pas, pour confondre celles qui sont. Vous voyez, si nous n'avons pas beaucoup de richesses, beaucoup de diplômes, hein, c'est pas grave. L'important, c'est que ils ont pu recevoir et que nous marchions selon les préceptes de Dieu. Puis, quelques exemples. Pensez à Anne, la maman de Samuel. Vous vous souvenez de Anne? Voilà, elle montait à Silo avec son mari Elkana. Malheureusement, Elkana avait deux femmes. Hein. Il n'y avait pas que Anne, il y avait Penina qui mortifiait Anne, qu'elle voyait comme sa rivale. Parce que si Penina régulièrement mettait des enfants, amenait des enfants au monde, il n'en était pas de même pour Anne, elle était stérile. Elle nous a dit qu'un jour, n'en pouvant plus, voilà, alors qu'ils se trouvaient à Silo, Anne a simplement, dans l'amertume de son âme, c'était une amertume, vous voyez, qui n'était pas dirigée contre Dieu, elle était amère parce que son épreuve était amère. Elle n'a pas voulu conserver cette amertume, elle n'a pas voulu que son amertume remplisse sa vie, elle s'est placée devant Dieu. Nous a dit simplement qu'elle a déversé son cœur devant lui. Ce n'est pas une prière qui avait de quoi impressionner. D'ailleurs, le sacrificateur Élie se trouvait là ce jour-là, il a cru qu'elle était ivre. Elle ne faisait que bouger les lèvres parce qu'il n'y avait pas la force de faire sortir autre chose. Mais Dieu a vu, Dieu a entendu cette prière. Ce n'est pas une prière qui impressionnait, ce n'est pas quelque chose qui frappait les regards, mais à travers cette prière d'Anne, bien, Dieu a manifesté sa gloire puisque il a donné naissance au prophète Samuel. C'est ne pas frapper les yeux, mais Dieu en a reconnu la valeur. Je me souviens aussi de cette sœur dans une assemblée du nord-est de la France. Dieu lui avait donné un authentique don de prophétie. Cette sœur était médecin, mais ce n'est pas pour ça hein, qu'elle avait reçu ce don. C'était une petite femme toute fluette. Quand elle élevait sa voix pour prier ou pour exercer le don, c'était une toute petite voix qu'on entendait à peine. Et un jour, entre autres, il y avait un jeune homme qui était présent dans l'assemblée. Ça faisait des mois qu'il venait, et cette semaine-là, il y avait eu un drame. Un jeune homme de l'église, militaire, une vingtaine d'années, était mort asphyxié par son chauffage. Et le pasteur avait annoncé cette mort tragique le mercredi soir, à la fin de la réunion de prière. Ce jeune homme qui venait, mais qui n'était pas converti pour autant, a été saisi, vous voyez, de crainte. Il est rentré chez lui et il s'est dit, ce jeune homme, il était chrétien, il est parti, il était sauvé. Et il a réfléchi à sa propre condition en se disant, si toi, tu devais basculer dans l'éternité, certainement, tu es perdu. Et ça l'a empêché de dormir plusieurs jours. Il était travaillé par la peur, vous voyez. Et Dieu fait bien les choses. Hein. Le samedi soir, il découvrait la Bible, ce jeune homme. Il ouvre sa Bible. Il ne comprenait pas grand-chose. Il tombe simplement sur ce passage de la première épître de Jean. L'amour parfait bannit la crainte. Et il avait prié toute la semaine, « Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu dont ma famille m'a parlé, pardonne mes péchés. T'en prie, permets que ma vie change. » Puis il n'arrivait pas à trouver le sommeil, à trouver le repos. Et voilà, il tombe sur ce verset. L'amour parfait bannit la crainte. Il n'a pas tout compris. Il a compris simplement que Dieu voulait traiter avec lui, non pas sur la base de la peur, mais lui manifestait son amour. Ça l'a calmé, il a pu dormir. Le lendemain, il se trouve à l'assemblée. Personne ne connaissait son état intérieur. Voilà que, pendant le culte, cette sœur se met à prophétiser. Voilà, Dieu a entendu ta prière. Dieu pardonne tes péchés. Tu es libre maintenant. Oh, il n'a pas eu besoin qu'on lui dise, hein, c'était pour lui. Et voilà que, à la fin du culte, il ressort, il revient l'après-midi, il garde les paroles de cette prophétie, et le soir, ce jeune homme partait, il dormait chez des membres de famille. Voilà, dans la voiture qu'il a ramenée chez ses membres de famille, la gloire de Dieu là, lui est manifestée. Les membres de sa famille ne l'ont pas senti, il n'a pas entendu de voix, il n'a pas eu de vision. Mais c'est comme si toute cette voiture était remplie de la gloire de Dieu. Voilà, sa vie a basculé ce jour-là. Le Seigneur est entré dans son cœur. Des années plus tard, ce jeune homme a eu l'occasion de parler avec cette sœur. Il lui a dit, tu sais, cette prophétie que tu as apportée ce matin-là, bien sûr, ça a été la suite de toutes sortes de choses, de tout ce que j'avais entendu depuis des mois, de la parole de Dieu que j'avais entendu prêcher et enseigner, mais ça a été le moyen dont Dieu s'est servi pour m'amener à la conversion. Et cette petite sœur de le remercier en lui disant, ça me fait du bien, tu vois, parce que parfois quand j'exerce ce don de prophétie, je me demande si vraiment ça fait quelque chose, je me demande s'il a vraiment une utilité. Certaines choses qui n'attirent pas le regard, mais Dieu est présent. Je crois que la portée véritable de ce texte, quand on y réfléchit, c'est aussi et surtout de nous montrer que une vie, les projets des hommes même qui connaissent Dieu, peuvent avoir une belle apparence et puis passer par un temps de bouleversement, par la providence de Dieu. Parfois, comme c'est le cas, par la manifestation d'un jugement de Dieu. Mais lorsque le juste jugement de Dieu, le juste châtiment de Dieu nous est administré, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir en tirer parti. Mon fils, est-il écrit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage quand il te reprend. Et voyez, quand on sait tirer parti du jugement de Dieu, bien, il est capable de restaurer. Le temple de Salomon, c'était tout ce que Dieu avait promis, c'était le symbole majestueux de sa présence au milieu du peuple d'Israël. Puis là, le jugement des Chaldéens, il n'y avait plus rien. On se met à la place du peuple d'Israël. Voilà pourquoi ceux qui voyaient cette nouvelle maison, cette petite maison s'édifier, pleuraient. Mais Dieu dira à ceux qui sont montés pour rebâtir le temple et qui le font de tout leur cœur, « Ne craignez pas, je suis au milieu de vous. » À nouveau, mon esprit est avec vous. Et je vais remplir cette maison d'une gloire qui sera supérieure à celle de la première maison. On pense à la prière de ce psalmiste, hein, dans le psaume 119, vous la connaissez, il disait « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. » Ça peut nous arriver même sur un plan individuel. Je pense à un frère dans une autre assemblée. Il a connu des temps de difficultés intérieures. Ça peut arriver à tous. C'est un frère, quand il était au milieu de l'église, il priait de manière tonitruante, hein, une ferveur là. Puis il est passé par ce temps de difficultés, par la providence et puis par le travail de l'esprit là, dans sa conscience et dans son cœur. Il a connu des difficultés. Et vous voyez, dans ces difficultés, il ne s'est pas laissé faire. Il a voulu réagir. Il a passé du temps devant Dieu dans la prière. Il a cherché la face de Dieu. Il a compris que, à certains égards, sa vie avait besoin de changer. Il a compris qu'il fallait dans sa vie changer l'ordre de ses priorités. Il a compris qu'il y avait quelque chose là, un tri à faire dans son cœur, des choses même à rejeter. Il s'est humilié profondément devant Dieu. Et Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a béni. Vous voyez, dans un temps de prière, notamment chez lui, Dieu l'a visité. Et à partir de ce moment-là, hein, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais sa prière même était différente. Ce n'était plus une prière tonitruante, ce n'était plus quelque chose là qui était destiné à impressionner. Priez tout calmement, parce que il avait été humilié. C'était pour lui une marque de confiance. Il avait compris que ce n'était pas sa prière qui allait changer les choses. Il s'adressait humblement au Dieu des cieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas prier avec ferveur. Ça ne veut pas dire que les frères et sœurs qui prient avec ferveur ne fassent pas du bien et que cette ferveur ne soit pas divine. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais dans le cas de ce frère, c'était comme ça. Et un jour, membre de l'Église, c'était un frère affermi dans la foi, un homme de Dieu, hein, est venu le trouver, lui a dit « Qu'est-ce qui se passe? Tu ne pries plus comme avant. » Et le frère lui a rien répondu. Mais lui savait à quoi c'était dû. Vous voyez, ce n'était pas une baisse de ferveur dans sa foi, mais Dieu avait permis qu'il passe par ce temps de brisement. C'était la marque d'un cœur qui avait perdu confiance en lui, mais qui se reposait sur Dieu. Vous voyez, un peu comme ce temple, hein, qui avait fière allure, lui a permis qu'il soit rasé. Une nouvelle maison, bien moins impressionnante pour les yeux des hommes, soit bâtie à sa place. Mais la présence de Dieu serait dans cette maison. Parfois, ça peut être vrai pour nos projets. On s'est imaginé, même en tant que chrétien, on peut s'imaginer plein de choses. Hein. Parfois, être même porté par des rêves. Puis, hein, patatras, Dieu permet que ça s'effondre. Mais si on sait l'écouter, si on sait le chercher, certainement, il nous conduira, pas forcément dans des choses qui brilleront tant, mais dans des projets où lui sera présent. Un homme de Dieu disait un jour, la marque de l'œuvre de Dieu est souvent que bien, les projets formés par les hommes meurent et ils ressuscitent. Quand c'est comme ça, disait cet homme de Dieu, c'est souvent la marque et le sceau divin. Hein, on s'est imaginé plein de choses, on a formé des projets et Dieu souffle dessus. Mais béni soit Dieu, il sait de quoi nous sommes formés. Lorsqu'on a à cœur de l'écouter, il est capable de relever et de nous permettre de bâtir quelque chose qui va lui être utile. Donnez un dernier témoignage avant de passer à un rapide dernier point. Je pense à ce chrétien qui lui aussi avait connu des temps de difficultés. Et pendant des années, il avait prié pour un ami. Et dans ces temps de difficulté, vous voyez, pareil, il s'est remis en question. Il a vu que Dieu lui demandait de faire de l'ordre dans ses priorités, le ramener vers l'obéissance à sa parole sur certains points. Et ça l'a marqué, il était humilié. À nouveau, il a prié pour cet ami. Puis un jour, chez lui, il découvre là une lettre. C'était une lettre de son ami. Et regarde la date. Oh, la lettre est arrivée des mois avant. Il ne l'avait jamais vue. Et là, cette lettre ressurgit, vous voyez, et ça lui a donné l'occasion d'écrire à son ami quelques paroles. Paroles d'exhortation. Cet ami était tout à fait un incroyant pour l'amener à la foi en Christ. Voilà, tourne-toi vers Dieu. Le Seigneur est capable de te sauver. Voilà, quelle réponse à la prière, hein ? Ce n'est pas des choses qui frappent les regards, mais Dieu agit parfois dans les choses qui ne frappent pas les regards. Il y manifeste sa gloire, je vous assure. Et puis, le dernier point, c'est que cette gloire, bien sûr, c'est la gloire de Christ. C'est la gloire de Christ. Dans le verset 7, dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 7, « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. » Alors, rapidement, certains ont voulu voir ici le fait que le temple d'Hérode était en réalité une restauration du temple d'Esdras, et que la présence physique de Jésus-Christ soit l'objet de cette prophétie. Après tout, pourquoi pas? Mais il semble, vous voyez, beaucoup plus cohérent de penser que Dieu a ici, dans son dessein, bien le fait que la prédication de l'Évangile sera annoncée à toutes les nations, et la gloire supérieure, c'est la gloire de l'Église, c'est la gloire que Dieu va manifester dans sa maison, la maison éternelle qu'il se prépare pour l'éternité, et la présence de Jésus-Christ lui-même dans son Église. Voilà, c'est ce que Dieu a présent à son dessein. Alors, présence de Dieu avec ceux qui bâtissent. Bien, ça nous parle, ça, de la présence de Christ au milieu de l'Église. Béni soit Dieu de ce que, oui, Jésus est présent dans sa maison. Voilà, on ne le sent pas toujours, on ne le voit pas, bien sûr, avec nos yeux physiques, mais le Seigneur est présent, hein, dans sa maison. « J'aime le séjour de ta maison, » disait le psalmiste, « c'est là que ta gloire habite. » Présence de son esprit, hein, « je suis avec vous, mais mon esprit est au milieu de vous. » Là encore, nous bénissons Dieu pour la réalité de la présence du Saint-Esprit dans son Église, pour parler par quelques dons spirituels, premièrement et avant tout pour appliquer la parole lorsqu'elle est annoncée, elle dévoile à notre cœur la personne bénie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on peut arriver dans dans la maison de Dieu, fatigué, lassé, tenté, et être secouru, fortifié et béni. Et puis la gloire, nous l'avons dit, c'est celle de Christ, d'une gloire qui est éternelle. On va terminer en lisant un dernier texte, il se trouve dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 25. Alors c'est le passage dans le Nouveau Testament où cette prophétie d'Agé va être citée. Hébreux chapitre 12, verset 25. Hébreux chapitre 12, verset 25. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Lui, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ce sont les paroles d'Agé. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que dans cet ébranlement des cieux et de la terre, Dieu révélait au peuple d'Israël que dans cette restauration, il allait conduire non seulement les choses, l'histoire des peuples alentours et des nations pour bénir Israël, mais qu'il annonçait aussi que même dans le ciel, il y aurait une œuvre divine. Finalement, ce que Dieu annonçait, c'est que son œuvre est éternelle. Et pour l'Église, ça prend tout son sens, puisque nous travaillons non pas simplement pour les choses de la terre, nous travaillons sur la terre, mais pour un royaume qui sera éternel. Parce que nos yeux se fermeront, lorsque les choses de la terre passeront, car elles passeront, bien il y a un héritage éternel, réservé dans les cieux, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et en parlant de ces choses, bien Paul dira, puisque nous sommes scellés pour la gloire de Dieu, puisque nous attendons la résurrection, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voilà, alors que nous soyons directement un petit peu dans une situation semblable à celle des Israélites au temps d'Esdras, ou que notre situation diffère à plusieurs égards, travaillons quoi qu'il en soit, de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre éternelle, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage. On pourrait se lever, voilà, et notre frère